question qui devrait en intéresser plusieurs. Où sera l'Église du Seigneur Jésus pendant la Grande Tribulation? Les Saintes Écritures vont nous donner une réponse encourageante pour tous les croyants. Aujourd'hui, à l'émission À travers la Bible.
Chers auditeurs, pour en savoir davantage sur le contenu de cette émission, vous pouvez contacter en tout temps Radio Espoir via Internet à www.radioespoir.ca ou par téléphone, sans frais, au 1-877-LESPOIR, 1-877-537-7647.
Bonjour, ici Caro. Mes amis, le Seigneur est tellement bon de nous enseigner sa parole jour après jour au cours de nos émissions. Quel encouragement pour les croyants et quel espoir pour tous ceux qui n'ont pas encore reçu Jésus comme Sauveur et Seigneur, mais qui écoutent le message de l'Évangile avec nous. Alors voici les questions qu'on va poser au livre de l'Apocalypse aujourd'hui. Existe-t-il une hiérarchie chez les bons et les mauvais anges? Dieu protège-t-il les siens quand il envoie un jugement sur la terre? Pouvons-nous savoir avec certitude quelle sera la marque sur le front des élus pendant la Grande Tribulation? Où sera l'Église de Jésus-Christ pendant la Grande Tribulation? Qui sont les 144 000 personnes qui seront sauvées et marquées du sceau de Dieu pendant cette période? Est-ce que d'autres gens seront sauvés pendant cette période? Seront-ils tous marqués du sceau de Dieu? Est-ce que c'est une majorité ou une minorité de gens qui placent leur confiance dans le Seigneur Jésus-Christ? De quelle manière les gens pourront-ils être sauvés pendant la Grande Tribulation? Restez avec nous. Le pasteur Régent Joly a ouvert sa Bible et il est prêt à nous enseigner ce qu'elle dit en réponse à chacune de nos questions. Mais premièrement, prions. Merci Seigneur pour ta parole. Merci pour la liberté qu'on a dans ce pays de pouvoir la lire, de l'entendre prêcher, même sur les ondes de la radio et de la télé. Touche nos cœurs par ta parole aujourd'hui, Seigneur. Transforme nos vies. On s'attend à toi, pour ta gloire. Amen. À toi, Régent.
Merci, Caro. Chers amis, à la dernière émission, nous avons vu que malgré les calamités, beaucoup de gens se tourneront vers Dieu au temps de la grande tribulation. Ils devront témoigner de la personne de Jésus-Christ dans des conditions particulièrement difficiles parce que l'Esprit de Dieu ne retiendra plus l'iniquité comme il le fait présentement. Au début du chapitre 7 du livre de l'Apocalypse, quatre anges se tiennent debout aux quatre coins du monde. Ils retiennent les vents de la colère de Dieu. Nous verrons dès maintenant la raison de cette pause dans le déroulement de l'action. Chers amis, lisons Apocalypse, chapitre 7, versets 2 et 3. « Et je vis un autre ange qui montait du côté du soleil levant et qui tenait le sceau du Dieu vivant. Il cria d'une voix forte aux quatre anges à qui il avait été donné de faire du mal à la terre et à la mer, et il dit, « Ne faites point de mal à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, jusqu'à ce que nous ayons marqué du sceau le front des serviteurs de notre Dieu. » Ange et démon, et je vis un autre ange. Un cinquième ange vient se rajouter aux quatre autres mentionnés au dernier verset. Il semble être le plus haut gradé du groupe, car il leur donne des ordres. Comme nous avons pu le voir dans le livre de Daniel et aussi dans l'épître aux Éphésiens, il existe une hiérarchie d'anges autant chez les bons que chez les mauvais. Satan est le chef du monde démoniaque et il a probablement des généraux, des lieutenants, colonels, des majors, des lieutenants, des sergents et de simples soldats. De l'autre côté, Dieu a lui aussi une chaîne de commandement. Et ce dernier ange donne ses consignes aux quatre autres. Dieu avait créé un monde ordonné. Lui-même était au sommet de la pyramide. Après avoir créé l'homme et la femme, il leur avait confié la gestion de la terre, comme on peut le voir dans Genèse, chapitre 1, verset 28. Dieu les bénit, et Dieu leur dit, « Soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et assujettissez-la, et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, et sur tout animal qui se meut sur la terre. » Mais cette gradation Dieu-homme-animal s'est trouvée bouleversée quand l'homme a décidé d'écouter le serpent, une créature inférieure, plutôt que Dieu, le Créateur supérieur. L'homme s'est alors coupé de ses racines spirituelles et divines, et il a renforcé ses liens avec la bête. Le monde où nous vivons reflète bien cet état de chaos. Nous avons déjà souligné qu'Adam et Ève avaient entraîné toute l'humanité dans leur chute. Il semble exister chez l'espèce humaine un lien corporatif dont les anges sont dépourvus. À cause du péché originel, nous naissons tous avec une tendance à nous rebeller contre Dieu et à lui désobéir. Les anges, eux, ont pu librement choisir s'ils allaient continuer d'obéir à leur Créateur ou alors décider de suivre Satan. C'est pourquoi il existe de bons anges et de mauvais anges. Le calme avant la tempête. Revenons à notre passage. L'ange cria d'une voix forte. Dans le texte original grec, l'expression « voix forte » est « phoné mégalé ». « Phoné » signifie « bruit » ou « voix » et « mégalé » signifie « grande » ou « forte ». En inversant les deux mots, nous obtenons « mégaliphone ». D'où vient notre mot « mégaphone » ? Le jugement redoutable de Dieu s'approche. Il frappera bientôt la terre entière. Il devient donc nécessaire de protéger les serviteurs de Dieu qui s'y trouvent encore. S'ils ne sont pas marqués du sceau, ils ne pourront jamais survivre aux calamités à venir. Dieu ne change pas et il procède toujours de la même manière pour protéger son peuple. Au temps de Moïse, alors que Pharaon refusait de libérer le peuple d'Israël, Dieu envoyait une dernière et terrible plaie sur le pays d'Égypte. Un ange a exterminé tous les premiers-nés des familles d'Égypte, de la famille du Pharaon jusqu'à la famille de l'esclave le plus humble. Mais auparavant, Dieu a pris soin de protéger son peuple. Par la bouche de Moïse, il a ordonné aux familles d'Israël de répandre le sang d'un agneau ou d'un chevreau autour de la porte de leur maison. Suivons le récit dans Exode chapitre 12, verset 23. Quand l'Éternel passera pour frapper l'Égypte et verra le sang sur le linteau et sur les deux poteaux, l'Éternel passera par-dessus la porte et il ne permettra pas aux destructeurs d'entrer dans vos maisons pour frapper. Au moment venu, le jugement de Dieu tombe sur l'Égypte au verset 29 et 30. Je vous en fais la lecture, toujours Exode chapitre 12. Au milieu de la nuit, l'Éternel frappa tous les premiers-nés dans le pays d'Égypte, depuis le premier-né de Pharaon assis sur son trône, jusqu'au premier-né du captif dans sa prison, et jusqu'à tous les premiers-nés des animaux. Pharaon se leva de nuit, lui et tous ses serviteurs et tous les Égyptiens, et il y eut de grands cris en Égypte, car il n'y avait point de maison où il n'y ait un mort. Dans l'Ancien Testament, l'Égypte représente le monde orgueilleux et rebelle envers Dieu. Mais, tout comme il a protégé Israël au temps de Moïse, Dieu protégera encore son peuple au temps de la grande tribulation. Mais, il faut d'abord que celui-ci soit marqué du sceau de Dieu. Ce n'est plus le sang d'un agneau ou d'un chevreau qui servira de signe, mais le sang de l'agneau de Dieu. Cet agneau lui-même, Jésus-Christ, a annoncé la tournure des événements à venir dans l'Évangile selon Matthieu chapitre 24, versets 21 et 22. Car alors, la détresse sera si grande qu'il n'y en a point eu de pareil depuis le commencement du monde jusqu'à présent et qu'il n'y en aura jamais. Et si ces jours n'étaient abrégés, personne ne serait sauvé, mais à cause des élus, ces jours seront abrégés. À cause des hommes et des femmes qui porteront le sceau sur leur front, ces jours de colère seront abrégés. Le sceau de Dieu. Quelle est la nature précise de cette marque sur le front? Je n'ai aucune certitude et je dois avouer que je ne connais pas la réponse à cette question. Je peux seulement faire quelques suggestions. Certains commentateurs disent connaître l'aspect de cette marque, mais ils semblent incapables d'arriver à se mettre d'accord. Personnellement, ils ne m'ont pas convaincu. Dieu ne nous a pas révélé dans sa parole de quelle marque il s'agissait, Et je ne pense pas non plus qu'il soit important pour son Église de la savoir, puisqu'elle ne sera plus sur terre à ce moment-là. On nous dit simplement que les serviteurs de Dieu porteront en ce temps un sceau ou une marque sur leur front. Nous savons toutefois que certaines personnes ne pourront pas acheter ni vendre pendant la grande tribulation. Car lorsque l'Antéchrist aura accédé au pouvoir, seuls ceux qui porteront sur eux la marque de la bête pourront acheter ou vendre. Nous verrons tout cela en détail au chapitre 13. Pour le moment, il suffit de savoir que le sceau de Dieu sur ses serviteurs contraste avec la marque de la bête. J'aimerais proposer que ce sceau de Dieu sera spirituel. Comme le dit l'évangéliste Matthieu chapitre 7 verset 20, « C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. On reconnaîtra le sceau de Dieu par le mode de vie de ses serviteurs. Dans ce temps où le mal et l'iniquité ne connaîtront plus de limites, les serviteurs de Dieu seront sans doute aisément reconnaissables à leur manière d'agir. Avant d'envoyer sa dixième et dernière plaie sur l'Égypte au temps de Moïse, l'Éternel a pris soin de protéger son peuple. Et ici, avant d'ouvrir le septième et dernier sceau, notre Seigneur Jésus-Christ prend la même précaution. Alors que les quatre anges situés aux quatre coins du monde se tiennent prêts à libérer les vents du jugement de Dieu, le cinquième ange leur ordonne de les retenir. Avant que ne soufflent les vents de la grande tribulation sur la terre, les serviteurs de Dieu doivent d'abord être marqués de son sceau. Ces serviteurs pourront venir tout autant de la maison d'Israël que des nations du monde. Où est l'Église pendant tout ce temps? On n'en entend plus parler pendant un long moment. Elle se trouve alors avec Jésus-Christ. Je crois qu'elle a déjà pris ses quartiers dans la Nouvelle Jérusalem. Dans l'Évangile de Jean, Jésus promet à ses disciples qu'il montera bientôt aux cieux afin de leur préparer une place. Maintenant que l'Église est élevée dans les cieux, l'assemblée des croyants se trouve maintenant avec son Seigneur et Sauveur. Nous reviendrons sur ce sujet lorsque la Nouvelle Jérusalem descendra des cieux au chapitre 21 de l'Apocalypse. La raison de cette pause entre l'ouverture du sixième sceau et celle du septième devient claire. Les serviteurs de Dieu doivent être marqués de son sceau afin de pouvoir espérer survivre à cette terrible période de la grande tribulation. Le Seigneur Jésus le leur a promis et il tient toujours parole. Le reste d'Israël scellé. Dieu agit d'une manière particulière envers le peuple d'Israël. Lorsqu'il lui annonce l'avenir, il spécifie des dates et des chiffres précis. Par contre, avec son Église, les dates et les chiffres semblent avoir beaucoup moins d'importance. L'apôtre Paul n'a jamais livré un rapport sur le nombre de croyants sauvés par le biais de son ministère d'évangélisation. Et même pendant la grande tribulation, le nombre de serviteurs de Dieu qui n'appartiennent pas au peuple d'Israël n'est pas donné. Par contre, même lorsqu'il corrige son peuple rebelle, Dieu les avertit à l'avance combien de temps le châtiment durera. L'exemple sans doute le plus connu est la durée de l'exil babylonien. Au début de l'exil, l'Éternel annonce au prophète Jérémie que cet exil durera 70 ans. On trouve les détails au chapitre 25 de Jérémie. Et quand les 70 années se sont écoulées, un autre prophète, Daniel, a prié Dieu au sujet de cette promesse, et Dieu a tenu parole au 9e chapitre de Daniel. Ici, le Seigneur révèle un autre chiffre prophétique concernant le peuple d'Israël. Fort heureusement, il s'agit d'une bonne nouvelle. Chers amis, lisons Apocalypse, chapitre 7, le verset 4. « Et j'entendis le nombre de ceux qui avaient été marqués du sceau, 144 000, de toutes les tribus des fils d'Israël. 144 000 est le nombre des serviteurs de Dieu qui seront marqués de son sceau et qui sont tous israélites. L'histoire nous prouve que l'Église grandit dans les temps de persécution et de tribulation. Pour cette raison, je crois que le nombre des conversions parmi les nations non israélites sera encore plus élevé. Toutefois, le Seigneur reste muet quant au nombre exact de ce dernier groupe. Apparemment, Pendant la grande tribulation, de nombreuses personnes parmi ces deux groupes seront sauvées. Et comment le seront-elles? En recevant le sceau de Dieu sur leur front. Le Saint-Esprit ne retiendra plus l'iniquité, comme nous l'avons mentionné à la dernière émission, mais il continuera de garder les serviteurs de Dieu. Il les régénérera et il exercera envers eux un nouveau ministère. Il les marquera du sceau de Dieu. Ce sceau garantit leur délivrance finale. Lorsque vous vous rendez au bureau de poste et que vous envoyez une lettre recommandée, le commis place un autocollant spécial sur votre lettre. Cet autocollant est une forme de sceau. Moyennant un supplément de votre part, le département des postes tout entier s'engage à ce que votre lettre arrive à destination. La poste ne vous dira pas quand elle sera livrée, mais elle vous garantit qu'elle le sera éventuellement. Nous avons la même idée ici. En scellant les serviteurs de Dieu, le Saint-Esprit garantit qu'ils arriveront à bon port. Mais s'ils n'ont pas le sceau, ils n'y parviendront pas. Pour ma part, je dois avouer que je n'arriverai même pas à terminer ma journée, si ce n'était de la puissance du Saint-Esprit dans ma vie. Je me demande parfois si les enfants de Dieu réalisent à quel point ils sont démunis. Nous sommes tellement faibles. Je renierais le Seigneur avant le coucher du soleil si ce n'était de l'œuvre du Saint-Esprit de Dieu dans ma vie. Car, par nature, nous sommes tous portés à la rébellion et à la désobéissance envers Dieu. Les 144 000. Dans notre passage, notre Seigneur nous livre donc un chiffre précis d'Israélites qui seront sauvés pendant la grande tribulation. 144 000. Ces personnes peuvent être identifiées sans aucune hésitation ni spéculation. Ce sont tous des enfants des tribus d'Israël. Je me dois de le répéter, car au moins deux cultes enseignent qu'ils font partie de ce groupe. Même s'il ne coule aucun sang juif dans leurs veines. À leur début, ces deux cultes affirmaient prendre ce chiffre de 144 000 au pied de la lettre. Ils n'étaient pas très optimistes. Mais quand le chiffre de leurs membres a dépassé ce nombre, ils ont changé leur interprétation. Je dois le répéter une autre fois. Les événements et les chiffres dont il est question ici ne font référence à aucun groupe existant aujourd'hui, et pas même à l'Église. Pendant la grande tribulation, 144 000 serviteurs de Dieu seront sauvés, et ils présentent tous la même caractéristique. Ils font partie de toutes les tribus des fils d'Israël. C'est écrit en toutes lettres. Et comment seront-ils sauvés? En reconnaissant enfin que Jésus-Christ était bien le Messie envoyé par Dieu. En passant, si vous insistez pour dire que vous appartenez à ce groupe, vous faites mieux de savoir à quelle tribu des fils d'Israël vous appartenez, car elles sont toutes identifiées au prochain verset. Donc, Dieu gardera un reste de son peuple et ils seront sauvés. Le chiffre de 144 000 peut sembler élevé, mais en réalité, il s'agit d'un petit reste. En 2003, on estimait la population d'Israël à plus de 6 millions d'habitants. Si on calcule que les deux tiers des Juifs vivent en dehors des limites de ce pays, nous arrivons à environ 20 millions de Juifs à travers le monde. Par rapport à ce chiffre, 144 000 ne représente même pas 1% de la population totale. Si la grande tribulation se produisait à notre époque, le reste d'Israël ne serait vraiment pas très nombreux. D'autres aiment spéculer ou tenter de tirer une valeur symbolique de ce chiffre. On prétend même que 144 000 est le symbole d'un autre chiffre. Heureusement, le prophète Daniel n'attachait aucune valeur symbolique aux 70 ans d'exil de son peuple. Et je pense que nous devrions en faire autant. Si le Seigneur dit 144 000, il ne veut pas dire 145 000 ou tout autre chiffre. De toutes les tribus des fils d'Israël, à partir du jour où Dieu a appelé Abraham à le servir, il s'est toujours gardé un reste fidèle à sa parole. Et ce reste d'Israël existe encore aujourd'hui. Je connais plusieurs juifs chrétiens, même s'ils préfèrent parfois être identifiés comme des juifs messianiques. En autant que le Messie en question soit Jésus-Christ, je n'y vois aucune objection. Des serviteurs juifs et non-juifs. En fait, le fait qu'ils soient juifs, français, anglais ou allemands, n'a pas vraiment d'importance. Nous devons cependant noter que seul un petit pourcentage du peuple d'Israël a réellement mis sa confiance dans le Seigneur Jésus-Christ. Mais à bien y penser, on peut dire la même chose des Français, des Anglais, des Allemands. La véritable Église de Dieu a toujours été minoritaire, peu importe où elle se trouvait. Au temps de Jézabel, l'ensemble du peuple d'Israël avait sombré dans l'idolâtrie. Un jour où le prophète Élie s'en attristait grandement, l'Éternel l'a consolé ainsi, dans 1 Rois chapitre 19, verset 18. « Mais je laisserai en Israël 7000 hommes, tous ceux qui n'ont point fléchi les genoux devant Baal. » 7000 véritables Israélites, cela fait seulement un petit reste comparé à la population totale. Et dans le Nouveau Testament, l'apôtre Paul écrit dans Romains chapitre 11, versets 4 et 5. Mais quelle réponse Dieu lui donne-t-il? Je me suis réservé 7000 hommes qui n'ont point fléchi le genou devant Baal. De même aussi, dans le temps présent, il y a un reste selon l'élection de la grâce. Au temps de l'apôtre Paul, il y avait aussi un petit reste dans l'Église. Encore aujourd'hui, un petit reste existe encore, à l'intérieur de l'Église visible. Et à l'époque de la grande tribulation, on trouvera encore un petit reste fidèle à Jésus-Christ. Parmi eux, le nombre des fils des tribus d'Israël est de 144 000. Le nombre des fils des autres nations n'est pas spécifié. Ce reste témoignera de la personne de Jésus-Christ pendant la grande tribulation. Dans l'Évangile, selon Matthieu chapitre 24, verset 14, le Seigneur Jésus parle de ces temps sombres en ces termes. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Certains prétendent que cette bonne nouvelle du royaume n'est pas l'Évangile, mais c'est faux. Dieu n'a jamais eu de plan B pour sauver les pécheurs. La seule façon d'être sauvé est de recevoir personnellement Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur. Si on avait demandé au jeune Abel ce qu'il faisait lorsqu'il sacrifiait un petit agneau à Dieu, il aurait répondu ceci. « Cet agneau ne me sauvera pas, mais il représente celui qui a été annoncé à ma mère. Celui-ci naîtra d'une femme et il sera le sauveur du monde. » Tous les sacrifices d'animaux de l'Ancien Testament étaient imparfaits et temporaires, mais ils préfiguraient un sacrifice parfait et permanent. Celui de Jésus-Christ sur la croix. C'est pourquoi Jean-Baptiste, qui est un peu l'intermédiaire entre l'Ancienne et la Nouvelle Alliance, déclare, en voyant Jésus, entre autres dans Jean chapitre 1, verset 29, « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. » La bonne nouvelle du royaume est l'évangile de la mort, de la mise au tombeau et de la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Plusieurs se sont tournés vers lui à l'intérieur et à l'extérieur du peuple d'Israël, et ils continueront de le faire, même pendant la grande tribulation. En ce temps-là, les serviteurs de Dieu prêcheront l'Évangile, mais ils pourront ajouter une phrase de plus que nous. Ils pourront affirmer « Alors viendra la fin ». En d'autres mots, il ne restera plus beaucoup de temps avant le retour du Seigneur. Je ne pense pas que nous ayons le droit d'affirmer que le Seigneur revient bientôt, car nous ne savons ni le jour, ni l'heure de son retour. Pourquoi alors courir le risque d'induire les gens en erreur? Mais une chose est certaine. La première venue de Jésus, c'est pour sauver. La question se pose encore aujourd'hui. Cher ami, es-tu sauvé? Préparons-nous pour la prochaine émission. En lisant Apocalypse, chapitre 7, les versets 5 à 10. Bonne lecture!
Merci, Régent. Tu as dit quelque chose qui m'a particulièrement parlé aujourd'hui au cours de l'émission. Mes amis, permettez-moi de répéter ces paroles, pour moi-même et pour vous, parce que je pense qu'on a tous besoin d'avoir la même conviction que Régent à ce sujet. Alors voici ce qu'il a dit. Pour ma part, je dois avouer que je n'arriverais même pas à terminer ma journée si ce n'était de la puissance du Saint-Esprit dans ma vie. Je me demande parfois si les enfants de Dieu réalisent à quel point ils sont démunis. Nous sommes tellement faibles. Je renierais le Seigneur avant le coucher du soleil si ce n'était de l'œuvre du Saint-Esprit de Dieu dans ma vie. Car par nature, nous sommes tous portés à la rébellion et à la désobéissance envers Dieu. Mes amis, c'est tellement vrai. Et s'il y en a parmi vous qui n'êtes pas d'accord avec cette déclaration, c'est peut-être parce que vous n'avez pas encore reçu Jésus-Christ dans votre vie comme Sauveur et Seigneur personnel. Ou bien il se peut que vous soyez des nouveaux convertis et que vous n'avez pas encore lu dans la Bible ce que Dieu nous enseigne à ce sujet. Réjean nous a dit qu'il était faible et démuni. Eh bien, ça me réjouit qu'il sache ça. Parce que l'apôtre Paul nous dit justement la même chose dans la deuxième épître aux Corinthiens, au chapitre 12, verset 10. C'est quand on est faible qu'on est fort. Et Réjean a aussi ajouté qu'il renierait le Seigneur avant le coucher du soleil si ce n'était de l'œuvre du Saint-Esprit dans sa vie. Mes amis, on se souvient tous de Pierre qui avait dit à Jésus que jamais il ne le renierait. Et avant que le coq chante deux fois, il l'avait déjà renié trois fois. Pierre se croyait fort à ce moment-là, mais il a bientôt vu qu'il ne l'était pas. Mais on voit qu'après, par la puissance du Saint-Esprit, il a pu accomplir de grandes choses. Et toi, mon ami, as-tu reçu le Saint-Esprit? Sinon, veux-tu savoir comment le recevoir? Dans son épître aux Galates, au chapitre 4, verset 6, Paul nous dit ceci. « Parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'Esprit de son Fils. » Maintenant, tu te demandes peut-être comment devenir un fils de Dieu. Eh bien, je citerai de nouveau cette fameuse déclaration de l'Évangile de Jean au premier chapitre, verset 12. « À tous ceux qui ont reçu la parole, qui est Jésus, à tous ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. » Mon ami, tu peux devenir un enfant de Dieu aujourd'hui, en ce moment. Crois-tu en Jésus? Crois-tu qu'il est mort à ta place sur une croix pour payer la dette de ton péché? La Bible nous dit que tous ont péché et sont privés de la glorieuse présence de Dieu. Alors, mon ami, si tu crois ce que je te dis présentement, si tu crois que ça vient de la parole de Dieu, si tu crois que Jésus lui-même est la parole de Dieu, et si tu prends Jésus au mot quand il dit qu'il est le chemin, la vérité et la vie, et que tu ne peux pas aller à Dieu le Père sans passer par lui, eh bien, demande à Jésus de te sauver, de te donner la vie éternelle maintenant. Il est présent et il veut te sauver présentement. Il ne veut plus que tu passes un seul instant sans lui. Alors, demande-lui tout simplement de te sauver. Reconnais que tu es incapable de gagner ton ciel. Jésus l'a payé pour toi. Il l'a payé en mourant sur la croix.
Chers amis, les gens nous posent souvent cette question, Caro. Qui sommes-nous?
Mais qui es-tu, Réjean?
Ben, qui es-tu, Caro?
Eh bien, je vais commencer par qui j'étais. J'étais une jeune femme qui chantait toutes sortes de chansons populaires. J'avais des succès au palmarès et ma carrière menait bon train. J'étais malheureuse, j'étais sans Dieu dans le monde. Et un jour, Dieu s'est fait connaître à moi. Et j'ai accepté Jésus comme Sauveur, comme Seigneur. Et je suis devenue une enfant de Dieu. Je suis née de nouveau. Et maintenant, je suis une chrétienne évangélique qui aime propager l'Évangile de Dieu. Avec toi, Réjean, je passe partout au Québec pour annoncer la bonne nouvelle du salut par grâce. À tous les gens qui veulent nous entendre, à tous ceux qui veulent s'intéresser à ce que Dieu veut pour eux, à connaître son amour pour eux. Alors, je vais avec toi. On va partout dans des déjeuners de l'espoir. Et ici, à Radio Espoir, pour dire aux gens, Dieu vous aime et Dieu veut vous instruire, vous faire connaître sa sainte parole. C'est merveilleux.
Les gens aimeraient peut-être nous rejoindre par téléphone.
1-877-LESPOIR. 1-877-537-7647. Et on a une adresse courriel.
www.radioespoir.ca. Ou l'adresse postale.
Radio Espoir, casier postal 34-143, Charlebourg, Québec, G1G6P2.
Chers amis, au revoir.
Bye bye.
Cette émission vous a été présentée par Radio Espoir.